I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Grégory Pouy. Vous le connaissez sans aucun doute puisque c'est l'auteur, entre autres, du podcast Vlan et d'un tout nouveau podcast, Ping. Il a également beaucoup d'autres métiers dont nous allons parler, bien entendu, pendant cet épisode. Mais surtout, je voulais le recevoir pour qu'il nous parle du monde de demain. Alors, vous allez voir, c'est une discussion qui parle de beaucoup de choses, du monde du travail, bien sûr, qui parle également d'écologie, qui parle de management. Bref, c'était une discussion absolument passionnante. Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Grégory.
Bonjour, comment ça va?
Mais ça va super bien, merci beaucoup de participer. Alors c'est ma première interview de rentrée pour Happy Work, donc vous inaugurez cela. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement, puis après on va commencer à papoter tous les deux. Donc Grégory Pouy, vous êtes analyste culturel, conférencier, évangéliste. J'ai toujours adoré ce mot, évangéliste. Auteur du best-seller Insoutenable Paradis. Et nous sommes collègues podcasteurs doublement, puisque vous êtes l'auteur du podcast Vlan. Et très récemment de Ping, dont nous allons très probablement parler lors de notre entretien. Vous accompagnez depuis plus de 20 ans celles et ceux qui veulent être au-devant des transformations positives de notre époque. Vous êtes diplômé en marketing. Oui, on revient presque à votre enfance. De la Aston Business School et fondateur de la Mercatique en 2012. Vous œuvrez à la confluence du marketing, des technologies et de la société. Je la refais. Vous œuvrez à la confluence du marketing, des technologies et de la sociologie et travaillez avec des marques de premier plan pour les aider à devenir des leaders dans l'ère post-moderne. Alors moi, la première question, Grégory, après avoir fait cette présentation...
Ça a l'air très... super tout ça.
Mais ouais, non mais en plus, il y a plein de mots compliqués qui font très sérieux. Je suis hyper impressionné. Je me demande si c'est pour cette première interview, j'aurais dû prendre quelqu'un de moins sérieux et de moins balèze. Mais je me lance, peur de rien, peur de rien. Il y a quelque chose que vous dites, moi, qui m'interroge vraiment, vous dites qu'il faut parler de transformation et non de transition. Et c'est vrai que le mot transition écologique, enfin le mot transition, il est très très présent dans les médias actuellement. Alors pourquoi vous parlez de transformation ?
Alors, on va redonner à César ce qui appartient à César. Ça ne m'appartient pas du tout, cette phrase. C'est une idée qui vient d'un historien, que j'ai lu très récemment et dont je me souviens pas le nom, donc c'est très honteux.
C'est la rentrée.
Mais en fait, je lis énormément de papiers, de livres, etc. Et j'avoue que là, j'ai plus la référence. Mais donc, c'est pas moi qui dis ça. C'est un historien qui dit que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de transition, ça n'existe pas. Il n'y a que des transformations. Voulu ou non voulu, mais en tout cas, c'est des transformations. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il a totalement raison. En tout cas, il a réussi à me convaincre.
On peut penser par exemple à la révolution industrielle, effectivement il n'y a pas eu, enfin il y a eu quand même une transition en termes de temps, mais ça a été tellement radical.
C'est ça, c'est des transformations profondes de la société, comme le capitalisme a été une transformation profonde de la société, effectivement révolution industrielle. Et en fait, moi je crois que oui, on ne sera pas dans une transition tranquille. Pour Vlan, j'ai enregistré Fanny Périset, qui est une anthropologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les enfants gâtés ». Une anthropologie du mythe du capitalisme responsable. Et c'est exactement ça, ce qu'elle décrit, c'est que le capitalisme responsable, c'est toujours le capitalisme. Et en fait, on change tout pour rien changer, quoi. Et en fait, ça, je pense que ça va pas tenir longtemps. C'est une réponse, c'est un palliatif. Mais la consommation responsable, c'est pas le sujet, en fait.
Mais est-ce qu'il faut avoir peur ou au contraire être hyper optimiste en se disant, bah, finalement, on va découvrir un nouveau monde? Ou on va inventer un nouveau monde?
Alors, j'ai une double réponse à cette question. Je pense qu'on... Par quoi je commence, le positif ou le négatif?
Comme vous voulez.
Bon, je vais commencer par le positif parce que je suis quelqu'un de positif. Moi, je crois que la société dans laquelle on vit, elle est absolument imparfaite. On parle souvent d'écologie punitive. Alors que pour moi, ça supposerait que la société dans laquelle on vit, elle n'est pas punitive. Et pour moi, la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive. Elle est extrêmement punitive à plein d'égards. On va parler un peu du travail, j'imagine.
Bien sûr.
Les gens font énormément de burn-out. On n'a jamais pris autant d'anxiolytiques. Enfin, on n'a jamais commis autant de suicides. Maintenant, en Europe, aux États-Unis, l'espérance de vie diminue. Donc, on peut pas dire que ce soit une société parfaite. Les gens ne sont pas spécialement heureux, se sentent extrêmement seuls, etc., etc. Bref, on peut pas dire que la société actuelle soit parfaite. Et donc, se dire qu'on va changer de modèle, et on va changer de modèle, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que c'est parce qu'on sera dans une forme de sobriété qu'on sera malheureux. Il y a cette phrase, justement... Dans ce livre que je viens de citer, que je trouve extrêmement belle, qui est qu'il faut percevoir la sobriété comme une forme d'abondance, et ça, c'est faire le choix de la liberté. Donc ça, moi, je crois, et ça vient de société de j'ai plus le nom, de cueilleur, j'ai plus le premier mot. Donc en fait, moi je pense que c'est une nouvelle manière d'envisager la vie, etc. Et moi je trouve ça plutôt très positif. Je pense que la surconsommation, je pense que le surconfort dans lequel on vit, il nous rend pas spécialement heureux, sinon tout le monde serait heureux. Puisque pour être dans les 1% les plus riches de la planète, pour mémoire, il faut gagner 27 000 euros par an. Donc en fait, on est beaucoup, en tout cas parmi les gens qui écoutent, parmi les 1% les plus riches de la planète, je ne pense pas que les gens qui sont en train d'écouter sont tous très très heureux. Donc ce modèle-là, on voit bien que même s'il a apporté énormément de choses, il a aussi ses limites.
Bien sûr. Donc
en ça, on peut être positif dans le sens, je pense que un changement de modèle, ce n'est pas complètement idiot. On n'a jamais eu aussi peu de partage des richesses. Ça, c'est Piketty qui l'explique bien dans son bouquin. Voilà. Après.
Allez-y, déprimez-nous, Grégory.
Après, sur la partie négative, plus j'observe mon comportement, mais aussi les comportements autour de moi, évidemment, de gens qui ont très conscience, et c'est justement tout ce que décrit cette femme, Fanny Paradis. Plus je vois qu'on change à la marge, ce qui nous arrange bien avec une sorte de crédit moral qu'on essaye d'avoir mais qui n'existe pas. Crédit moral, ça serait parce que je trie mes poubelles, parce que je mange pas de viande, alors je peux prendre l'avion. Enfin voilà, tout ce qui concerne le crédit moral, ça n'existe pas évidemment. On aimerait bien se rassurer comme ça, mais ça marche pas. Donc aujourd'hui, on sait que voilà, on a dépassé toutes les limites qu'il fallait dépasser. Donc on va vers une situation dans laquelle il va y avoir beaucoup de migration climatique. On sait qu'il va y avoir énormément de morts, pas forcément en Europe, mais enfin dans le monde entier, ça va être par dizaines de millions, je pense. Donc de ce côté-là, on ne peut pas se réjouir des masses. Voilà. Donc et puis là, on voit bien, au moment où on enregistre, en tout cas. Les inondations, enfin voilà, il y a du dérèglement climatique, comme on appelle ça, donc c'est un changement climatique qui va venir comme ça du jour au lendemain. Les gens, ils s'attendent parfois, quand on parle de crise écologique ou crise climatique, que d'un jour à l'autre, ça change. Alors qu'en fait, c'est pas exactement ça, hein. Malheureusement, c'est des crises climatiques, et donc du coup, ça va être des accidents climatiques de plus grosse ampleur, de plus en plus souvent.
Mais j'aimerais bien quand même rebondir sur ce que vous dites, et parce que là, ça pourrait
rebondissant.
On pourrait faire un débat très long là-dessus, mais ouais. J'entends ce qu'on dit sur un petit côté. Alors, j'aime pas le mot catastrophisme, parce que fondamentalement, il y a un gros point d'interrogation. Et moi, je fais toujours référence à Thomas Malthus, un économiste du 19e siècle, qui nous annonçait que la planète, on n'allait plus pouvoir nourrir l'ensemble de l'humanité, et que donc c'était bien s'il y avait des grandes pandémies, c'était super si on pouvait tuer du monde, parce que fondamentalement la planète ne pourrait pas nourrir tout le monde. Et il a été crédible, le garçon. Donc malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a, bien sûr qu'il faut agir, bien évidemment, la question n'est même pas là, mais par contre le côté catastrophisme parfois me fait flipper.
Alors plutôt, et moi aussi. Je vais redire un truc peut-être positif. D'abord, moi, je ne crois pas du tout dans la fin du monde, la fin de la vie sur Terre, etc.
Je croyais que vous nous annonciez ça, c'est pour ça que je m'étais permis.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'habitabilité du monde.
Bien sûr.
C'est-à-dire, en fait, les qualités de la vie sur Terre. La question, c'est pas de savoir si on va continuer à pouvoir vivre sur Terre. Bien sûr qu'on va pouvoir continuer à vivre sur Terre. La question c'est pas ça. La question c'est plutôt de se dire, ben, en fait aujourd'hui on est 8 milliards. Bon, on parle de 10 milliards. Je sais pas si on y arrivera, mais par contre les conditions de vie sur Terre sont difficiles. Alors après on peut s'inquiéter pour nos enfants. La réalité pour les enfants elle est pas trop problématique parce qu'en fait c'est un système de comparaison. Comme eux auront connu que ça, finalement la comparaison sera pas douloureuse. La comparaison sera plus douloureuse pour nous. Mais comme une vie humaine c'est assez courte. Finalement, nous, on ne pourra pas comparer grand-chose non plus, même si ça peut aller assez vite.
Ce que vous dites, ça fait penser à une vidéo qui m'a fait hurler de rire sur Instagram de Julien Doré qui disait « Les enfants, réjouissez-vous, on est au mois d'août, c'est l'été le plus frais que vous connaîtrez.
» Mais il a raison. et après, moi, je ne suis pas du tout catastrophique, je suis juste réaliste, c'est-à-dire que, bien sûr, en fait, il y a un truc qu'il faut avoir en tête. Je pense que c'est un chiffre qui est important de comprendre, c'est que les émissions de carbone ont un impact sur nos vies 20 ans après. Donc en fait, comme on sait que sur les 20 dernières années, on n'a fait que augmenter,
bien sûr.
On sait bien que dans les 20 prochaines années, ça va être de plus en plus catastrophique. Je veux dire, pour le coup, il n'y a pas trop de surprises. Donc bien sûr, les températures vont augmenter, bien sûr que ça va être de plus en plus dur, bien sûr qu'il va y avoir de plus en plus... on parle d'un ouragan qui arrive en France, donc voilà, il faut être réaliste, il va y avoir, on a rendu la vie impossible dans plein de pays, donc il va y avoir énormément de migration climatique. Tout ça, c'est pas être catastrophique, c'est juste être réaliste. Donc voilà, après, moi je suis pas catastrophique dans le sens où je suis pas en train de dire qu'on va plus pouvoir vivre sur la planète, que nos enfants ça va être horrible ou quoi. Mais les enfants, je pense que oui, ils vont comparer avec ce qu'ils peuvent comparer sur une vie humaine. Encore une fois, une vie humaine c'est quand même court. Ils seront pas choqués.
Complètement.
Mais ils n'auront pas la même chose que nous, mais déjà nous, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais nous, on n'a déjà même pas la vie que quand on était enfant. C'est-à-dire qu'on roule en voiture, il n'y a pas de moucheron. j'ai connu ça.
Bien sûr. Non, mais justement, là, ce sont des choses très macro. Et on parlera du leadership tout à l'heure à propos de votre nouveau podcast. Mais même si on sait que fondamentalement, pour vraiment agir, il faudrait que ce soit les dirigeants, les gouvernements, les patrons et les patronnes d'entreprises qui agissent vraiment de façon extrêmement forte et responsable. Cela étant dit, il y a un mouvement qui a commencé aux États-Unis et qui arrive maintenant en France où je trouve que la prise de responsabilité et l'action devient une réalité, et notamment la grande démission. La DARES a annoncé plus de 550 000 démissions sur le dernier trimestre, il me semble. Et le nombre de DRH qui me disent « mais l'été a été un carnage en nombre de démissions », quel regard vous portez sur ce mouvement? Est-ce qu'il y a une prise de conscience et se dire « si je peux agir, autant le faire. Si je ne suis pas bien dans mon boulot, je me casse. »
Je pense que c'est... de mon point de vue, les deux sont liés, évidemment. Écologie et santé au travail. D'abord, on a une pandémie de santé mentale qui est là. Qui est lié très largement au capitalisme. En fait, il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, c'est venu d'un mouvement qui s'appelait le self-care, qui a été créé par des psychiatres dans les années 60, et qui était là pour les personnes qui étaient abîmées par le capitalisme, comme on l'est tous aujourd'hui finalement, parce que essorées du travail mental et physique. Donc cette sur on a poussé les curseurs de la productivité, de l'optimisation dans tous les sens, et les gens sont fatigués.
Mais ça, là, dans le rapport à l'entreprise, je ne sais pas si vous avez des enfants, Grégory.
Pas encore.
Non. J'allais faire une blague pas drôle, mais mes enfants écoutent de temps en temps, donc je ne vais pas la faire.
Faites-la. Moi, j'aime bien les blagues.
Non, j'allais dire heureux homme, mais j'en pense pas un seul mot. Non, mais on a été élevés par la génération des 30 Glorieuses, donc nous, ma génération, dans l'admiration de l'entreprise, puis on s'est pris quand même le chômage de masse, le burn-out. On a bien mangé. Quand on parle de génération sacrifiée, la nôtre, elle est quand même pas mal. Et justement, j'ai le sentiment que nos enfants, et je le vois avec ma collection d'enfants, ils n'ont pas le même rapport...
Ah, c'est une collection, carrément.
Oui. ils n'ont pas le même rapport du tout à l'entreprise parce qu'ils ont été élevés par des gens qui ont donné cette défiance. Et la grande démission, ça me semble être plutôt un signe d'une vraie prise de conscience et d'une action. Et je vois les DRH et les dirigeants se dire « mais il y a un vrai problème ».
Je crois que ça vient d'ailleurs, de mon point de vue.
Bien sûr.
Je peux me tromper, et voilà, on est en itération. Mais pour moi, la manière dont je l'envisage, en tout cas, je ne pense pas que ce soit une question d'éducation. Nous, on a été effectivement, moi je suis en 76, donc
Ah oui, ça joue son petit jeune, mais en fait, pas tant que ça.
Ah non, moi, je ne suis pas jeune du tout. J'ai jamais dit que j'étais jeune. Mais nous, je ne sais pas si on était une génération sacrifiée. C'est vrai qu'on a tendance à dire ça, parce qu'il y a eu le sida, etc., etc. On a eu une jeunesse dorée,
ah oui,
je crois,
tout à fait, bien sûr.
Dans le sens où on a vécu dans l'insouciance totale, dans la hyper-consommation totale,
on
etc. Donc, génération sacrifiée, c'est relatif. Mais je crois surtout qu'en fait, alors je vais partir sur une notion un peu plus sociologique peut-être, on est quasiment la première génération, alors ça dépend des pays, etc., mais on va partir sur la France, où on a tué Dieu. Pas que nous, mais voilà, on a tué Dieu dans le sens où il y a jamais eu aussi peu de croyants dans des religions. Et en fait, quand on prend un tout petit peu de recul, il n'en faut pas non plus des tonnes, hein, on se rend compte qu'il n'y a jamais aucune société humaine qui a vécu sans Dieu. Parce qu'il y a besoin d'avoir du sens dans la vie. Et le sens, ça a toujours été les religions, dans toutes les civilisations humaines. Toujours. Et ça s'est éteint, finalement, avec, effectivement, l'avènement du capitalisme, du néolibéralisme. En particulier avec donc Friedman, Thatcher, Reagan, quoi, le trio. Friedman, qui fait ce papier extrêmement connu... dans les années 60-70, si je ne me trompe pas trop, sur le rôle d'une, enfin, le sens d'une entreprise, c'est de faire du profit, même s'il ne dit pas que ça, en tout cas, ça a été traduit comme ça, qui a été mis en place par Thatcher et Reagan, donc l'hypercapitalisme, etc. Et en fait, le sens qu'on a trouvé dans cet hypercapitalisme, il est mort aussi. Et en fait, on se retrouve dans une chute de sens totale pour tout le monde. Et parce qu'on se retrouve dans une situation assez inédite, on a une liberté, parce qu'on a une croyance autour de l'individualisme très forte. On se retrouve dans une situation où on doit prendre des décisions sur tout. Comment éduquer ses enfants, comment faire ci, comment faire ça. C'est hyper difficile, ça prend énormément de place mentale. Et je crois que les gens qui arrivent sur le marché du travail, en fait, ils disent, mais en fait, ce job, il n'apporte aucun sens. Et en fait, ils sont en quête de sens. Et ils sont aussi... il faut bien le voir, il y a deux situations. Il y a d'abord, et dans cette grande démission, c'est ça qui est intéressant, une grande démission par le bas. Ce que j'ai envie de dire, c'est bien sûr que quand on est élève d'HEC ou de Agro Paris et qu'on dit on veut pas complaire au système, etc., ouais, c'est une chose. Mais quand on est dans une situation de précarité financière, c'est une toute autre réalité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit les deux. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que les personnes auxquelles vous faites référence, alors, bien sûr, c'est dans des secteurs où il y a quand même pas mal de plein emploi.
Bien sûr. Donc, et puis, ce sont des gens avec diplôme et plutôt de moins de 35-40 ans.
Il y a les deux. Il y a ceux sans diplôme aussi. Hein. Tous les gens qui sont dans les restos, etc.
Bien sûr.
Ou aux États-Unis, si vous faites référence aux États-Unis. Il y a les deux. Et encore une fois, on est dans une situation où il n'y a jamais eu aussi peu d'équilibre. Il y a un très bon papier dans The Atlantic qui s'appelle... Comment McKinsey a détruit la classe moyenne, qui est hyper... Bon, de toute façon, The Atlantic, c'est toujours une très bonne référence, mais le papier est vraiment très intéressant. Alors, il faut le taper en anglais. Hein. Si vous cherchez en français, ça va évidemment pas fonctionner. Mais, How McKinsey Destroyed the Middle Class. Et ça, c'est dans les années 60. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... je crois que les jeunes, ils ont plus cet ascenseur social possible... et du coup, grande émission, parce que ça n'a aucun sens.
Mais est-ce que, quand même, j'entends de plus en plus de DRH qui commencent à enfin penser que ce que je raconte n'est pas complètement débile concernant le CDI. On voit de plus en plus de jeunes qui refusent des CDI. Est-ce que c'est pas parce que, justement, ils mettent le sens là où il doit être, c'est-à-dire sur leur vie personnelle, et ils veulent pas être mariés avec une entreprise?
Mais ça, c'est ce que vous décrivez, oui, mille fois. Je l'entends et je suis totalement d'accord. Mais c'est aussi la fin de la croyance dans le néolibéralisme.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, ce modèle de le travail, c'est la santé, l'avènement par le travail, etc. Ça, c'est en fait pour eux et en fait pour un certain nombre de quarantenaires aussi qui prennent conscience. En fait, ça, c'est mort. Et donc, remettre l'humain au centre, les valeurs humaines au centre, l'attention au centre. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'on est rentré tellement dans une société d'optimisation, de performance, que l'humain, par définition, comme le résultat, c'était un résultat uniquement financier, dans la majorité des structures, hein, je dis pas que c'est le cas pour toutes les entreprises, mais bon, pour beaucoup d'entreprises, ça a été ça. bah du coup l'humain c'est une variable d'ajustement. Donc
mais c'est très franco-français quand même. Enfin, je dis pas que c'est que franco-français, mais il aura fallu attendre la vague de suicide dans deux grands groupes français en 2008 pour qu'on parle de qualité de vie au travail. On réagit aux crises, on est très en réaction en France plutôt qu'en action.
Ouais, c'est valable un peu partout, je crois, malheureusement.
Bon, mais... il y a quelques pays, je pense bien sûr aux pays nordiques.
Non, bien sûr, les pays nordiques, c'est sûr qu'il y a une vraie différence, mais par exemple, dans les pays nordiques, c'est vrai, et je prends l'exemple de l'Allemagne, c'est vrai, sauf pour les femmes.
Oui, alors ça s'améliore grâce, enfin, ça s'améliore un petit peu.
C'est en train de bouger, mais pour la situation pour les femmes en Allemagne, elle était extrêmement rétrograde.
Mais alors, justement, est-ce que c'est votre, parce que vous, vous imposez un deuxième podcast, donc, non, mais moi je dis bravo pour le masochisme. Est-ce que c'est pour ça que vous voulez faire quelque chose sur le leadership et ce genre de thématique, justement, pour sensibiliser, quel est l'objectif en fait de Ping?
Alors en fait, l'idée pour moi, c'est de me dire. En fait, donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Un Snap Paradis, dans lequel je me suis posé la question, je me suis observé, je me suis dit, bon, moi j'ai une conscience très nette qu'il faut changer. En même temps, je vois bien que je change pas, ou en tout cas pas assez vite. Et je me suis dit, comment on fait pour changer, sachant que moi j'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit. En fait, c'était l'action que je me posais, mais c'était en 2018. Et en fait, donc je suis allé analyser. Bon, finalement, la société elle est structurée en trois : la politique, les entreprises, la société civile. Et donc, j'ai interviewé les trois, en passant de François Hollande, en passant par des anthropologues, des sociologues, et puis des grands patrons de boîtes, etc. Pour essayer de comprendre comment on bouge. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, parce qu'on attend tous que ça vienne du politique, et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça ne viendra pas du politique.
Bien sûr.
Donc voilà, la société civile, c'est bien mignon, mais en fait, ils n'ont pas les moyens de changer parce que c'est des changements qui sont systémiques. Et la société civile, en fait, bah, ils ont pas vraiment les moyens de changer les choses systémiques. En tout cas, le gros de l'impact carbone, alors, si on parle que du carbone, mais c'est pas que le carbone le souci. Au niveau individuel, on peut pas faire grand. On peut faire des choses, hein, c'est super les petits gestes. Moi, je dis pas, mais disons que c'est pas comme ça qu'on va faire changer les choses. Un exemple assez facile comme ça, c'est de, bah, si on prend l'exemple du travail, c'est si on prend l'exemple de Paris ou des grandes métropoles, mais disons Paris, les gens se déplacent plutôt en vélo aujourd'hui qu'en voiture, donc c'est super. Mais le vélo, ça pollue aussi. C'est-à-dire qu'un vélo électrique, je veux dire, il faut le produire, c'est du métal, il faut de la transformation, donc du coup, il y a de l'énergie qui est consommée. Ce qu'il faudrait, c'est changer le rapport au travail. Pourquoi il y a des gens qui viennent au travail, en particulier ceux qui vivent en banlieue? Alors, il y a plein de métiers dans lesquels c'est pas nécessaire. Pourquoi on crée pas des espaces de coworking dans les villes de banlieue? Pourquoi il y a besoin d'aller autant au travail? Et parfois, c'est important. Et c'est important de se revoir régulièrement, etc. Ça, je suis convaincu, parce qu'il y a aussi ce lien social qui se crée au travail. Mais voilà, c'est un changement de paradigme. Et en fait, ça, l'individu, lui, il peut pas faire grand-chose. Le fait que, c'est par clair. Exemple, une machine à laver, ça utilise des vieilles résistances pour chauffer de l'eau, alors que vous avez déjà de l'eau chaude chez vous, ça, l'individu, lui, il va pas laver son linge à la main. Donc, le fait qu'il y ait des autoroutes, que les hôpitaux soient centralisés, que voilà, ça c'est le problème. Mais je veux dire, un individu, qu'est-ce qu'il va changer à ça? Il peut rien faire. Et en fait, on voudrait que ça vienne du politique, mais en fait, je crois que ça viendra des entreprises. Et en fait, dans ma tête, moi, je m'étais dit que j'allais aider les entreprises à se transformer, puisque j'ai fait beaucoup ça. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, la transformation qu'on demande aux entreprises, c'est deux choses. C'est d'abord un changement de paradigme financier. Donc de passer en triple comptabilité, c'est-à-dire prendre en considération l'humain et le vivant de manière plus générale, et aussi la finance, donc triple finance, triple comptabilité, et pas uniquement la finance. Donc il y a des boîtes qui le font déjà, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, il y a une problématique de logistique et de design. En fait, moi, je suis ni designer ni financier, donc en fait, je peux pas trop aider sur ces plans-là. Et pourtant, moi, j'ai envie de m'inscrire dans mon époque, donc j'ai envie d'aller dans le bon sens, entre guillemets, ce que j'appelle le bon sens. Et je me suis dit, bah, finalement, tout ça, ça reste une question d'humain. Et j'ai envie de participer à mon niveau. Alors, je le faisais déjà avec Blanc, hein, l'air de rien, mais avec mon livre. Mais je me suis dit, je vais aller directement dans le leadership pour montrer qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles, parce qu'en fait, ce que je vois aujourd'hui encore de manière assez majoritaire, alors même s'il y a votre podcast, vos podcasts, vos livres qui existent, il y en a plusieurs, finalement, le discours majoritaire, c'est soit d'un côté, on a ce leadership où le succès, c'est encore beaucoup l'accumulation de pouvoir, d'argent, de célébrité, d'image, etc., etc. Ou de l'autre côté, des gentilles petites boîtes qui disent non mais vous savez l'écologie c'est bien, on peut envisager de... Et en fait je vois pas de discours dominant sur un leadership pensé différemment. Il y a le bouquin d'Hubert Joly qui vient de sortir, qui est génial sur ce sujet. Donc Hubert Joly qui est un Français mais qui dirigeait pas Walmart mais ça m'échappe d'un coup. Hubert Joly, ça vous dit rien ?
Non.
Ah, mince. Bon, donc c'est un très grand patron français qui dirigeait cette boîte Best Buy américaine qui l'a sauvé du. Alors, il a fait un bouquin génial. Donc, il a sauvé cette boîte de la faillite et il a multiplié les profits par 8 en centrant sur l'humain. Donc voilà, il y a quand même des grands patrons qui existent et qui font ce genre de choses. Mais j'avais envie justement de montrer qu'il y avait d'autres modèles qui étaient possibles. Et c'est pour ça que je lance Ping, c'est de me dire, en fait, j'ai envie de participer encore un peu plus à mon niveau, de dire, regardez, en fait, il y a d'autres modèles qui sont possibles, autant pour des grandes structures que pour des petites. Et en fait, pour moi, c'est ça l'idée, c'est de dire, regardez, c'est possible. En fait, vous pouvez changer, vous passez, et si vous le faites pas, finalement, vous allez être en retard.
Donc, en fait, Ping, c'est l'idée, c'est de mettre en avant des pratiques de leadership qui sont novatrices, peut-être d'inspirer également, et peut-être aussi de nous donner un petit peu d'espoir en se disant, il y a des boîtes où ça existe, en fait.
Ouais, des boîtes qui, exactement. C'est une boîte à outils aussi. L'idée, c'est d'être un peu concret de temps à autre, en tout cas, pour dire, comment je fais pour faire ci, comment je fais pour faire ça, et donc je reçois. Enfin, je vais recevoir des CEO de boîtes et des experts, donc des anthropologues, sociologues, neuroscientifiques, des gens qui ont bossé sur le sujet ou des patrons qui le mettent en place. Donc, je pense entre autres au patron de La Maïf que j'ai enregistré, au patron de Babylou que j'ai enregistré, au patron de Alan.
Il est extraordinaire, le patron de Babylou.
Ouais, il est super bien, il est incroyable. J'ai enregistré la semaine dernière. Le patron de La Maïf aussi, parce qu'elle l'est mangée.
Tout à fait.
Et le patron de Alan aussi. Donc là, j'ai enregistré Apollonia Poilan. Voilà. Enfin, un certain nombre de personnes pour montrer qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles et qu'on peut envisager de manière différente. Et typiquement, Hubert Joly, c'est un peu dans la target list des gens que j'ai envie de recevoir. Même si j'ai pas envie de recevoir que des grosses boîtes. Mais je pense que les grosses boîtes, quand elles bougent, c'est des paquebots, donc elles peuvent vraiment faire changer les choses.
Eh bien, écoutez, Grégory, contrairement à vous qui faites des entretiens de une heure, moi, je suis une énorme feignasse, c'est entre 20 et 30 minutes, mais je sais que ça donnera envie à beaucoup d'auditeurs de Happy Work de découvrir Ping, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une rentrée où les infos sont un tout petit peu anxiogènes, et d'entendre des discours qui vont un peu à contre-courant du catastrophisme. Oui, je crois aussi profondément, comme vous, pour d'autres raisons très probablement, mais on arrive à la même situation. Si on n'agit pas, rien bougera. Donc, je vous souhaite plein de succès pour Ping. Bienvenue à ce nouveau podcast. Je vous remercie mille fois du temps que vous m'avez consacré et je vous souhaite. Non, c'est moi d'abord. Grégory, mille merci. Bonne rentrée à vous et je vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci, excellente rentrée.
Au revoir.
Au revoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.